Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous êtes avec l'équipe de la Fondation Copernic pour l'émission Mode d'emploi comme tous les derniers vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission Didier Gélot et Emmanuel Rengouet. Avec Claude à la technique. Nous avons intitulé l'émission de ce soir « Droit LGBT, homoparentalité, comment aller plus loin ?» Pour en discuter, deux invités. Nous serons d'abord avec Nicolas Gouguin, porte-parole d'Inter LGBT. Bonsoir. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Yves Geland. Nous serons avec lui par téléphone. Yves Geland qui est réalisateur de documentaires, qui a notamment réalisé Bleu, Blanc, Rose, production Ciné-TV, et Marié à tout prix sur les mariés de Bègle, production Compagnie des Phares et Balises. Vous pouvez retrouver l'émission comme les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org, et sur le site de Mode d'emploi. Commençons donc l'émission de ce soir sur les droits LGBT. Avant de commencer l'émission, on va continuer notre fil rouge de la Fondation Copernic. Notre fil rouge, c'est un fil qu'on tisse autour d'une publication qui s'appelle Sarkozy, bilan de la casse, où il s'agissait de faire le bilan des réformes engagées par le gouvernement Sarkozy ou des contre-réformes dans un abécédaire, chaque entrée parlant d'une réforme de manière très courte et très synthétique. Et donc ce soir, l'entrée que nous avons choisie, c'est l'entrée spéculation. Et elle est, c'est Guillaume Etiévant qui nous en parle. Il est expert auprès des comités d'entreprise et des organisations syndicales. On l'écoute.
Présente l'entrée spéculation.
Alors donc l'idée de cette entrée, c'est d'abord de dire que faire le bilan de Nicolas Sarkozy, c'est faire le bilan de ses méfaits et des contre-réformes sociales qu'il a mis en place, mais c'est aussi faire le bilan de ce qu'il n'a pas fait. Et ce que n'a pas fait Nicolas Sarkozy, c'est réglementer la finance et réglementer la spéculation. Donc ce qu'on explique dans cette entrée, c'est que tout d'abord, dans sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy avait dit très clairement qu'il était favorable aux subprimes. Dans les subprimes, c'est ce qui a contribué en grande partie à la crise financière initiée fin 2008. Et donc évidemment, à partir de fin 2008, il a changé son discours et il a commencé à dire qu'il fallait réglementer la finance, qu'il fallait moraliser le capitalisme. Et comme d'habitude avec lui, il y a une contradiction totale entre son discours et ce qu'il fait réellement. Et ce qu'il a fait réellement, eh bien, c'est tout simplement rien du tout. Il n'a même pas fait le minimum. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître notamment une directive européenne de réglementation des bonus qui étaient déjà très légères, qui disaient simplement qu'il fallait équilibrer la part variable et la part fixe de la rémunération hein, pour limiter les dérives des traders, etc. Eh bien, cette directive, il a refusé de l'appliquer en France. Et par ailleurs, il n'a fait aucun acte de réglementation des différents produits dérivés financiers très dangereux qui nous avaient amenés à la crise. On sait qu'un pays comme l'Allemagne a interdit de manière temporaire des produits dérivés comme la vente à découvert ou comme les CDS. Et ça, Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait du tout. Donc il n'a absolument rien fait sur ces sujets-là. Il a simplement fait une très légère augmentation de la taxation des stock-options, mais il a laissé tous les mécanismes en place. Et ce qui pourrait être très simple de mener comme politique de réglementation, d'interdiction d'un certain nombre de produits dérivés qui permettraient de stabiliser la finance, eh ben, il a refusé de le faire. Donc le bilan de Sarkozy sur la spéculation, c'est qu'on a vu grandir, continuer à grandir la spéculation et ses dérives, et qu'il a refusé d'affronter le monde de la finance.
Bien, et bien cette première introduction du bilan de Sarkozy concernant la question de la finance nous amènera certainement à aborder ce sujet sur la question qui est traitée aujourd'hui, hein, celle du mouvement lesbienne, gay, bi et trans. On y reviendra avec notre invité, donc, comme on l'indiquait tout à l'heure, Nicolas Gouguin. Mais peut-être qu'avant ça, il serait certainement intéressant peut-être pas d'aborder directement la question de l'historique du mouvement, parce que ça, je crois qu'on pourra en rediscuter un petit peu plus tard avec notre second invité. Mais néanmoins, il y a une première question que j'aimerais te poser, Nicolas. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui le mouvement tel qu'il se dessine et tel qu'il agit hein, dans la sphère sociale, on voit bien que on a quand même eu une évolution très forte hein, entre, disons, sur ces 30 dernières années, disons-le tout de suite, peut-être depuis les années 70, où quand même ce mouvement est né. Enfin, tu pourras peut-être nous le confirmer. Et où on avait à l'époque, bon, évidemment, l'époque était celle de la contestation et de la remise en cause du contrôle social, du contrôle familial, en particulier aussi... on luttait beaucoup contre les formes patriarcales, hein, de domination de la famille. Aujourd'hui, on a un mouvement qui est fortement, en tous les cas, c'est ce qui apparaît, dirigé vers la question des droits. Alors c'est vrai que cette question des droits, on la retrouve dans différents champs. Hein. On la retrouve dans le logement, on la retrouve sur l'emploi, on la retrouve sur différents types de terrains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc le mouvement LGBT a une revendication qui est un peu forte, c'est celle de l'égalité des droits. On va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire égalité des droits pour le mouvement LGBT. Mais est-ce que déjà un petit peu on peut voilà revenir pas tant en historique mais sur cette idée un peu que les revendications très très largement ont quand même beaucoup évolué dans au fil des ans.
Ben, je vais quand même être obligé de donner quelques éléments d'historique parce que si les revendications elles ont évolué en l'espace de 30 ans, c'est aussi parce qu'il y a eu des faits majeurs qui ont illustré un certain nombre de tournants aussi dans l'histoire et du mouvement, sa représentation. La première date qu'on pourrait donner, c'est 81, bien sûr. Donc, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, et puis toutes les mesures qui en suivent, et notamment, tout le toilettage du code pénal et des fichiers qui existaient à l'époque hein, des homosexuels, qui étaient, enfin, les brigades des mœurs, tout ça. Donc, du coup, on passe d'une situation de quasi où l'homosexualité est quasi pénalisée, une situation où elle est entre guillemets acceptée, normalisée, même si effectivement il y a pas d'égalité des droits, par exemple entre les couples, mais où pour autant, 81, c'est un acte fondateur de ce point de vue. Il y a un élément qui va changer aussi les revendications, c'est tout simplement l'arrivée de l'épidémie du SIDA. Cette épidémie va quand même majoritairement toucher dans un premier temps la communauté homosexuelle. Et de fait, toute une série de revendications qui émergeaient pas nécessairement au départ vont devenir évidentes, comme le fait de il y avait un certain nombre de personnes qui vivaient en couple. Comment est-ce qu'on fait pour que quand l'un des deux décède, toute la question du partage, toute la question de la sécurisation du couple, de la reconnaissance sociale des couples. Et c'est à partir de cette situation-là, de ces situations-là, que vont émerger les premières propositions de partenariat civil qui vont aboutir 99, le PACS, et c'était la troisième et dernière date que je voulais citer, le PACS qui permet de donner une existence, une reconnaissance sociale aux couples de même sexe. Alors ce contrat il n'a pas été voulu que pour les couples de même sexe puisqu'il s'applique à tout le monde, mais pour autant c'était la première fois qu'on avait des couples de même sexe qui étaient intégrés dans une réforme de ce type, et donc ça contribue à rendre profondément beaucoup plus visibles les couples de même sexe dans la société. Et c'est vrai que depuis 99, on assiste à un véritable retournement de l'opinion, sur la question du mariage et la question de la famille, de l'homoparentalité. Ça a aussi profondément transformé le mouvement, puisque depuis 99, de plus en plus de personnes se sont aussi rendues visibles, et donc sociologiquement aussi le mouvement a changé et les revendications ont évolué avec.
Alors on va peut-être continuer sur cette question des revendications, mais avant je veux juste réparer un petit oubli que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas présenté Inter-LGBT. Peut-être tu peux nous dire un petit peu ce que c'est cette association.
Alors oui, tout à fait. Donc inter-LGBT, donc ça veut dire inter-associative lesbienne, gay, bi, trans. Donc LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. C'est une inter-associative, comme son nom le dit, qui regroupe une soixantaine d'organisations, LGBT ou non d'ailleurs, puisqu'on a quelques organisations dites généralistes qui participent à nos travaux. Je pense à la FSU par exemple, je pense à l'UNEF, je pense à Amnesty International qui ont ces structures généralistes qui ont des commissions LGBT, donc qui travaillent généralement sur la question des droits humains, mais qui du coup ont une réflexion sur la question LGBT. Donc c'est 60 organisations. L'inter-LGBT c'est un lieu où on fait la synthèse des débats politiques sur les questions LGBT, la synthèse un peu des tout ce qui relève de l'actualité, la réflexion du mouvement vis-à-vis de l'actualité. Et c'est le principal interlocuteur institutionnel. Le principal interlocuteur des institutions et des politiques sur les questions LGBT. Et dernier élément qui nous définit, c'est la structure, l'inter-LGBT, qui est la structure organisatrice de la Marche des Fiertés de Paris, donc l'ancienne ex-Gay Pride.
D'accord.
Merci pour effectivement avoir rappeler l'historique et rapidement donc l'historique. Je voudrais quand même revenir sur cette question de donc de cette finalement de ce changement hein, d'axe revendicatif. Est-ce que ça pose des est-ce que ça se discute dans le mouvement ou est-ce que c'est je dirais maintenant très majoritairement accepté que bon on soit sur ce type de revendication ou est-ce que ça pose encore problème au sein du mouvement?
Alors si vous prenez la question du mariage par exemple
je pense à celle-là évidemment.
C'est peut-être la question la plus sur laquelle il y a pu y avoir le plus de discussions puisque la revendication de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, nous ne disons pas mariage homosexuel. Parce que le mariage homosexuel, ça voudrait dire qu'on part du principe que le mariage est une orientation sexuelle, parce qu'il y aura un mariage hétérosexuel, et donc ça sous-entendrait qu'on pourrait avoir plusieurs types de... Enfin voilà, suivez le raisonnement. La revendication de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, elle est assez récente en fait dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement précurseur dont on parlera tout à l'heure, c'est le mariage de Bègle qui a un peu bousculé aussi, toute la réflexion dans le mouvement à l'époque, mais le mouvement était quand même assez divisé, notamment une bonne partie du mouvement lesbien, parce que le mariage en tant qu'institution, tout ce que ça représentait, et d'ailleurs les féministes ont toujours dénoncé tout ce que représentait en termes de... Enfin oui, le mariage était le symbole du patriarcat et par extension de l'hétéro-patriarcat. Donc c'est vrai que c'est pas une revendication qui s'est entre guillemets naturellement imposée dans notre corpus revendicatif. Mais j'ai envie de dire que depuis quelques années maintenant, depuis 2004 notamment, mais depuis quelques années, c'est une question qui fait consensus. Parce que, on ne défend pas l'institution en tant que telle, mais on positionne le débat sur la question de l'égalité des droits, l'égalité stricte des droits, et qu'à un moment donné, le mariage étant civil, mariage républicain, ça dépend comment est-ce qu'on souhaite le dire, mais étant un acte civil ou républicain, on part du principe que les couples doivent avoir la liberté de choisir quel type d'union ils souhaitent contracter, et on se rendait compte quand même que le fait qu'il y ait une partie des couples qui aient accès à cette institution entre guillemets et l'autre pas, le fait d'avoir cet accès, d'avoir la liberté d'avoir cet accès, c'était aussi un moyen d'inférioriser encore les couples de même sexe et de légitimer finalement une certaine forme d'homophobie ou d'infériorisation des homosexuels. Donc souvent quand on a envie un peu de singer cette revendication, on parle aussi du droit au divorce ou du droit de ne pas se marier, mais ne serait-ce que le fait d'avoir le droit de ne pas se marier, on pourrait aussi repositionner la revendication de ce point de vue-là, mais on le positionne sur le point de vue de l'égalité des droits, l'égalité des choix.
On y reviendra tout à l'heure, mais je pense que passage d'une revendication à une autre, et en particulier sur la revendication du droit au mariage, tient aussi à toute la problématique, comme on a un petit peu évoqué au début, hein, de succession, de propriété, de couple, bon, pour lequel l'un peut disparaître, et que peut-être tu peux en dire un peu plus sur par exemple, les droits au PAC, c'est les droits qui sont dans le mariage, qui sont certainement pas les mêmes pour les homosexuels, évidemment.
Alors oui, évidemment, les droits sont pas les mêmes. Notamment, une des différences importantes qu'il y a entre les deux, c'est la question de la pension de réversion. La droite était défavorable à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe depuis 10 ans maintenant qu'elle est au pouvoir. Les associations LGBT ont une stratégie un peu différente parce que bon, les couples ils vieillissent, hein, donc à un moment donné, on peut rester arc-bouté sur nos revendications. Pour autant, c'est comme on pourrait faire le parallèle avec une démarche syndicale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut quand même gratter des choses et puis faire avancer les choses. Et donc depuis plusieurs années, les associations demandent à ce que le PACS soit amélioré dans le sens de d'y intégrer justement cette pension de réversion. C'est un exemple parmi d'autres. Et puis il y a d'autres aussi droits qui découlent du mariage et qui découlent du mariage et qui ont des conséquences notamment sur les questions de parentalité.
Des enfants, absolument.
Alors après,
on y reviendra tout à l'heure.
Alors après, justement, sans pour autant trop déborder sur le sujet d'après, ce que nous demandons quand même sur la question de la parentalité, l'homoparentalité en général, c'est pas non plus conditionner le débat ou l'ouverture ou la reconnaissance des familles homoparentales à la question du mariage, parce que c'est pas le cas pour les familles hétérosexuelles aujourd'hui, hétéroparentales aujourd'hui, parce que, enfin, d'ailleurs, on se rend compte que plus de la moitié des enfants naissent hors mariage aujourd'hui. Pour autant, leurs familles sont reconnues et ont des droits en tant que famille, en tant que telle. Même si on milite pour une déconnexion de cette question du mariage et du coup de la conjugalité et cette question des familles et de la parentalité, pour autant, il y a quand même des droits qui découlent du mariage et qui ont une incidence sur le partage de l'autorité parentale, sur l'autorité parentale conjointe, sur la possibilité d'adopter conjointement. Aujourd'hui, pour pouvoir adopter en couple, il faut être marié. Et donc, en ouvrant le mariage, on ouvre aussi un certain nombre de vannes sur la question de l'homoparentalité. Et c'est bien ça, d'ailleurs, qui hérisse le poil à un certain nombre de réactionnaires de tout poil, justement, qui s'opposent aujourd'hui à la revendication du mariage et de facto de la question de l'homoparentalité.
Finalement, dans cette évolution des revendications, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande de normalisation, il y a une volonté de normalisation en fait, qui apparaît très clairement. Tu parlais tout à l'heure de droit au divorce ou de droit au non-mariage. C'est vraiment vers ça qu'on va. Et c'est vrai que pour le coup, là, il y a une vraie évolution par rapport aux années 70 notamment. Sur la question justement de cette demande de mariage, je voulais juste, j'ai lu qu'il y avait aussi des associations qui étaient moins dans la demande de mariage que dans une optique de réformation vraiment de l'institution mariage, et notamment de laïcisation, parce qu'il y a des vieilles traces, on va dire, des obligations religieuses qui étaient inscrites dans le mariage, notamment l'obligation de fidélité. Donc l'idée que tout ça serait un petit peu encore réactionnaire ou un petit peu à épousseter, et que pour ça, ce serait pas la revendication du mariage en soi qu'il faudrait avoir, mais celle d'une vraie réforme de cette institution-là.
Oui, alors ça, c'est un vieux débat aussi, hein. Mariage versus union civile, d'ailleurs, parce que le mariage est une union civile. Enfin, quand notamment les candidats de la droite et du centre nous proposent aujourd'hui, ou même hier d'ailleurs, une union civile qui serait à peu près la même chose que le mariage en termes de droit, mais qui serait réservée aux couples de même sexe, parce que vous comprenez, les couples homosexuels, ils peuvent pas se marier parce que le mariage est une institution. Je reprends leur discours. Souvent on nous renvoie que, nous les homosexuels, finalement, on revendique pas un peu ce folklore, cette tradition, toute cette histoire, et que ce qui compte, c'est qu'on ait finalement des droits similaires à d'autres. Simplement, à partir du moment où on a une réflexion sur le mariage et on souhaite toiletter le mariage ou changer la symbolique du mariage, il faut qu'elle se fasse pour tous. Donc c'est une question de méthodologie. Après, nous, ce qu'on demande, c'est dans un premier temps de mettre à égalité tous les couples, et donc de véritablement avancer en termes d'égalité des droits, et de se poser peut-être à partir de ce moment-là des questions sur peut-être un certain nombre d'évolutions à traduire dans la question du mariage. Il y a toute une série aussi de réflexions qui existent d'ailleurs chez les féministes, que peut-être le mouvement LGBT se pose pas assez, mais qui se pose beaucoup du point de vue des associations féministes. C'est la question des droits individuels, les droits sociaux individuels. Et donc je pense que à partir du moment où les féministes, elles sont déjà un peu plus loin que nous, parce que nous, on n'a pas encore l'égalité des droits. Donc la première étape pour nous, c'est cette égalité des droits, cette égalité en reconnaissance. À partir de là, ça nous permet aussi de construire une réflexion qui va un tout petit peu plus loin sur le changement de l'institution en tant que telle, parce que si on la change, il faut la changer pour tout le monde.
Oui, absolument. Mais est-ce que ce type de revendication vous amène à avoir justement, alors au-delà de la coordination LGBT, est-ce que ça vous amène à avoir des relations avec d'autres types de mouvements sociaux qui sont sur une logique et de même type, c'est-à-dire de revendication des droits fondamentaux? Alors ça peut être effectivement, tu disais tout à l'heure que les femmes ont acquis certains droits, c'est vrai, ils sont théoriques, ils sont pas forcément effectifs. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a de ce point de vue un travail de réflexion avec d'autres mouvements sociaux?
Alors le féminisme, c'est un très bon exemple, parce que justement les mouvements féministes et LGBT sont très complémentaires déjà dans l'histoire, et puis parce que la bataille des féministes au départ, c'est la liberté de disposer de son corps, et donc la libéralisation des mœurs aussi, et donc finalement le mouvement LGBT, il est dans la continuité de tout ça. Et d'ailleurs, le mouvement lesbien a aussi été une véritable colonne vertébrale du mouvement féministe, puis il l'est toujours d'ailleurs, mais bon, a été une véritable colonne vertébrale du mouvement féministe comme du mouvement LGBT. Donc les liens sont évidents, mais j'ai envie de dire que au-delà de la question peut-être des droits, parce que bon, si effectivement sur la question des droits des femmes, il y a des choses qui ont fortement évolué depuis les années 70 sur la question des droits des homosexuels, et donc de fait ce qui relève aussi des droits des couples et des familles, il y a encore beaucoup de trajets à faire. Pour autant, même si on est plus en avance sur la question des droits des femmes, il y a la question de la défense des acquis, tout simplement, parce que quand on voit toutes les attaques qui peuvent encore exister aujourd'hui sur la question de l'IVG, sur la question de l'accès à la contraception, etc., etc. Et donc, autant que faire se peut, on essaie de construire aussi des ponts entre les différents mouvements pour montrer que défendre l'avortement, la contraception, la liberté de disposer son corps, c'est dans la même continuité aussi que finalement le combat que nous on incarne en tant qu'association LGBT. Donc ces solidarités, elles sont de mon point de vue naturelles, mais il faut quand même les entretenir parce que elles sont pas toujours évidentes pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on discute très régulièrement avec les associations féministes. On participe au 8 mars, elles participent à la marche des fiertés, on participe à leurs événements régulièrement et inversement, parce que aussi je pense qu'on a tout intérêt à construire un front commun, justement parce que nos opposants pour le coup sont en commun, et donc c'est toujours les institutions religieuses pour certaines teintées de morale, de bonne morale, qui attaquent d'une même manière d'ailleurs les femmes et les LGBT. Et donc, à partir du moment où on a les mêmes opposants, il n'y a pas de raison que justement on soit pas unis face à eux pour permettre plus d'égalité, plus de liberté, etc., etc.
Bien, mais on va peut-être passer à quelques minutes de musique et ensuite on prendra, je pense,
donc on fait une première pause musicale avec Marlène de l'Escope. C'était donc Marlène de l'Escope. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et nous parlons des droits LGBT. Alors nous sommes normalement en ligne avec Yves Jolan. Bonsoir. Ah, Yves Jolan ne nous entend pas.
Eh bien, on va attendre un petit peu qu'il nous appelle et puis on va poursuivre avec Nicolas Gouguin. Tu me disais, Nicolas, que pendant la transition musicale, que évidemment les droits, c'est fondamental. L'effectivité des droits, c'est aussi une revendication que vous avez. Est-ce que tu peux développer pour nos auditeurs?
Tout simplement dire que les droits, c'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire que certes, il y a encore un certain nombre de choses à conquérir en termes de droits, mais pour autant, quand on regarde un peu à côté de nous, en Espagne, bon, même si un certain nombre de droits commencent à être remis en cause, mais en Espagne, au Portugal, en Belgique, dans tous les pays qui ont pu avancer en termes de droits, pour autant, ça n'a pas fait chuter en flèche le mal-être qui peut exister dans la population LGBT, notamment chez les jeunes. Enfin, faut juste rappeler que, par exemple, chez les jeunes homos, il y a entre 11 et 13 fois plus de tentatives de suicide que chez les jeunes garçons hétéros. Tout ça aussi, ça demande des moyens, de la réflexion, et justement, dans les quelques éléments qu'on peut mettre au crédit du gouvernement sur cette année, si pas grand-chose a bougé en termes de droits, pour autant, ils ont initié pour la première fois des campagnes d'information, de sensibilisation sur la question de l'homophobie. Alors, c'est absolument pas suffisant. Mais quelques réformes déjà, que ce soit qui se fasse demain en termes de droit, il faut l'accompagner par de la formation. On parlera tout à l'heure des familles, mais ces nouvelles familles, il faut qu'elles soient bien accueillies dans les différents services qui peuvent être en contact avec les familles, pour que après les homosexuels ne se retrouvent pas à être discriminés, stigmatisés selon justement leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Bien, effectivement, tu nous disais qu'on allait peut-être passer sur une seconde partie de l'émission concernant, au-delà donc du droit des homosexuels et des LGBT, à la question de la parentalité, parce que c'est effectivement un sujet qui maintenant prend de l'importance. On voit comment de plus en plus certains couples homosexuels, hein, qu'ils soient féminins, masculins, prennent la position d'adopter des enfants. Je crois qu'il y a plusieurs manières déjà d'adopter un enfant. Est-ce que c'est une première question, ça ?
Alors déjà, quand on parle d'homoparentalité, quand on parle des familles homoparentales, il faut savoir qu'on a beaucoup de cas de figure différents. Déjà, comme pour les familles, hétéroparentales, il y a le cas des familles recomposées. Et donc, il y a un certain nombre de familles homoparentales qui, en fait, sont des familles recomposées. Et donc, où vous avez des enfants qui sont nés dans le cas d'une famille hétéroparentale, un des deux parents, les parents se séparent, se remettent, et puis il y a un couple de même sexe qui se forme. Et du coup, on se retrouve dans la configuration de famille recomposée homoparentale. Donc ça, c'est un premier cas.
Est-ce que ça, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le changement sociologique, un petit peu des groupes homosexuels en France? Est-ce que là, on a un mouvement un peu aussi dans la composition sociologique qui fait que cette question de l'homoparentalité se pose aujourd'hui alors qu'elle ne se posait pas hier? Est-ce que ça s'explique un peu comme ça ou pas du tout?
Comment dire, ça fait cette question de l'homoparentalité, elle s'impose de plus en plus à nous, parce que comme je disais tout à l'heure, avec le PACS qui a rendu réellement visibles les couples, qui a rendu beaucoup plus visibles les couples, de fait un certain nombre de couples ont souhaité aussi fonder une famille à un moment donné, où il y avait des familles qui existaient de fait, et donc la question aussi des droits et de la reconnaissance et de la sécurisation de ces familles, elle s'est posée. Je parlais des familles recomposées, il y a aussi le cas des personnes qui souhaitent adopter, et comme je le disais tout à l'heure, on peut pas adopter conjointement quand on est paxé ou quand on est même en concubinage, et donc quand on est en couple de même sexe, on peut le faire que quand on est marié, et donc comme on ne peut pas adopter l'enfant de sa compagne ou de son compagnon, on peut le faire que dans le cadre du mariage, si on veut en tout cas que l'autorité parentale elle soit effectivement partagée entre les deux parents. Et donc, je parlais de l'adoption, et donc aujourd'hui, la majorité des cas, c'est qu'il y a un des deux parents qui peut faire une demande d'agrément pour adoption, qui peut adopter seul, et qui, en fait, la réalité, c'est que vous avez deux parents, mais un seul à l'autorité parentale sur l'enfant. Donc, les familles, elles arrivent nous, on les appelle familles, mais elles ne sont pas des familles au regard de... Enfin, en tout cas, la famille n'intègre pas le deuxième parent. Alors, on lui a donné un nom. On parle de parent social dans ce cas-là. Mais ce parent social, donc qui n'est pas le parent légal ou biologique, donc parent légal adoptant ou biologique, ce parent social n'a aucun droit... Enfin, on lui reconnaît aucun lien, en fait, avec l'enfant. Donc, ça veut dire que si jamais il y a une séparation, parce que si jamais il y a une séparation dans un premier temps, que ce soit une séparation par le cadre, deux personnes se séparent ou qu'il y a un décès, notamment le décès du parent légal ou biologique, aucun lien n'est reconnu entre l'enfant et ce parent social, et donc du coup ça crée des situations qui sont ubuesques et qui sont dramatiques, surtout pour les enfants. Et donc peut-être la première chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que les opposants à la question de l'homoparentalité parlent souvent de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, pour le coup, c'est de pouvoir, en tout cas, que sa famille soit reconnue, que sa famille soit réellement sécurisée, et que justement, en cas d'accident de la vie, parce que c'est dans les accidents de la vie qu'on vérifie aussi tous ces droits, et que tous ces droits ont encore plus de sens, ces enfants soient réellement sécurisés, en fait, et que ces familles soient réellement sécurisées. On estime aujourd'hui qu'il y a, par exemple, qu'il y a autour de 300 000 familles homoparentales en France, donc c'est pas rien. Et donc, bon, du coup, je parlais des familles recomposées, je parlais de l'adoption, et le dernier point, c'est sur ceux qui souhaitent fonder une famille, qui ont un projet, parental, et donc qui vont faire pour certains une PMA, donc ça c'est procréation médicalement assistée, donc ça c'est notamment pour les couples de femmes, donc qui vont à l'étranger, parce qu'en France,
Belgique.
En Belgique ou en Espagne. Et donc il y a les cliniques qui sont spécialisées là-dedans, à côté des frontières. Mais voilà, enfin je veux dire qu'ils vont à l'étranger et qu'après, forcément il n'y a qu'une des deux mères qui est légale également la mère de l'enfant, et donc c'est les mêmes galères que quand il y a une adoption. Bon, voilà, simplement c'est l'enfant a, comment dire, a été conçu de manière différente. Et il y a aussi les cas de coparentalité où vous avez 2, 3, 4 parents qui se retrouvent à faire un projet parental ensemble. Cas typique, vous avez imaginons un couple de lesbiennes, un couple de gays, donc qui décide de faire un enfant ensemble. Et donc, on prend un homme et une femme, et donc du coup, on bricole pour faire une insémination. Enfin, c'est pas ça l'intitulé, mais donc ils font un enfant, et au final, on essaye de faire reconnaître
l'enfant comme étant.
Voilà. Simplement, même si les familles vont arriver, enfin, dans ce cas-là, il y a que deux parents légaux. Pour le coup, mais même si il y a que deux parents légaux ou un parent légal dans le cadre de PMA, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, les familles essaient de se débrouiller pour obtenir ce qu'on appelle les délégations d'autorité parentale. Donc c'est la possibilité de pouvoir avoir une partie de l'autorité parentale, on va dire, sur l'enfant pour tous les gestes un peu de la vie quotidienne. Typiquement, l'amener à l'hôpital, signer le carnet de correspondance à l'école, ce genre de choses. Mais faire une demande d'autorité parentale, donc pour un tiers, c'est une démarche qui est extrêmement lourde, et c'est le juge aux affaires familiales qui décide de ça. Il y a des enquêtes qui sont faites dans les familles pour voir qu'elles s'occupent bien des enfants, donc il y a des flics qui viennent dans les familles pour voir effectivement si le parent social, enfin le tiers, s'occupe bien de l'enfant et qu'il n'y a pas de problème. Et donc en fait, on est toujours dans cette logique de preuve. Voilà, c'était à ça que je voulais arriver, ça sera ma conclusion sur ce point-là parce que je suis un peu long, mais on est toujours dans une logique de preuve. Pour les familles homoparentales, il faut qu'elles prouvent qu'elles peuvent être de bons parents, alors qu'on ne demande pas du tout la même chose pour les autres.
Alors qu'on ne demande effectivement pas la même chose pour les autres. Ça va nous permettre de passer maintenant à notre invité.
Bonsoir Yves Jolan.
Bonsoir.
Merci d'être resté avec nous. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Vous avez réalisé deux documentaires sur la question de ces droits. Bleu, Blanc, Rose en 2002 aux productions Ciné TV, et puis Marie à tout prix aux productions Phare et Balise sur le mariage de Bègle, qui a été quand même un événement historique et symbolique.
Oui, dont Nicolas Gougain nous expliquait au début de l'émission qu'elle avait été un petit peu un acte fondateur pour le mouvement homosexuel, le mouvement LGBT, ouais, en particulier sur la question des droits et des droits au mariage.
Ouais. Alors on va peut-être pouvoir parler des deux documentaires. Le premier, Bleu, Blanc, Rose, c'est un documentaire qui nous permet de revenir un petit peu sur cette historique qu'on trépigne de faire depuis le début de l'émission. Peut-être on peut d'abord vous demander, donc c'est un documentaire qui retrace l'histoire du mouvement de libération homosexuelle, on peut peut-être dire ça, en tout cas du mouvement de mobilisation pour les droits.
Oui, c'était pas seulement uniquement un film sur la militance homosexuelle, mais également sur la société française, oui, et sur l'histoire de la France et des homosexuels, et sur effectivement l'avancée des droits, mais aussi sur la perception de l'homosexualité dans la société. Donc c'est un film qui date maintenant d'il y a 10 ans, donc aujourd'hui je pourrais presque faire un troisième volet, puisque c'est un film en deux parties, 2 fois 70 minutes, qui partait de l'après 68 pour s'arrêter en 2002. Donc 2002, c'était juste après
le PACS,
puisque le PACS date, de si ma mémoire est bonne, de la loi d'octobre 99, et aussi juste après l'élection de Bertrand Delanoë, qui était donc des hommes politiques homosexuels. Il y en a eu beaucoup, et plus que son coming out à 98, ce qui est important, je pense, a été quand même l'élection d'un maire qui disait qu'il était homosexuel et qui demandait le droit à l'indifférence.
Oui, ça apparaît très symbolique, et c'est vrai que c'est fêté dans le film par des rassemblements en face de la mairie de Paris.
C'est pas ce qui est fêté devant l'hôtel de ville, c'est l'élection d'un maire de gauche plus que l'élection d'un maire homosexuel quand même. C'est, voilà. Même s'il y a quelques rainbow flags,
oui,
sur le parvis de l'hôtel de ville ce soir de mars 2001.
Alors, une première question qu'on peut vous poser, c'est sans doute pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce documentaire-là et de cette manière-là ?
Écoutez, tout dépend des films, mais là, je dois reconnaître, même si c'est un film qui m'a beaucoup marqué, enfin, en tout cas, enfin, le travail pour moi était important. C'était le premier film d'archives que je réalisais. Mais c'est un film qu'on m'a proposé de réaliser. Et la productrice, Fabienne Servan-Schreiber, il y avait aussi le bouquin de Frédéric Martel qui était sorti quelque temps auparavant. Donc ce n'est pas une mon initiative. Alors qu'il y a peut-être deux films sur trois que je réalise qui sont des films que j'apporte. Là, c'est une proposition qu'on m'a faite. Mais parfois, c'est des films qu'on vous propose qui peuvent devenir les plus personnels ou les plus intimes. En tout cas, c'est vrai que je me suis plongé dans cette histoire qui brassait 30 ans de vie homosexuelle en France. C'était vraiment ça, hein, oui. Avec ces figures.
Alors on peut peut-être revenir dessus, justement.
De la création du Front homosexuel d'action révolutionnaire jusqu'à
le phare, hein.
jusqu'au PAC, soit en passant par les Gay Pride, notamment, hein, les marches des fiertés qui a eu une démonstration de la visibilité avec chaque année une thématique différente, dont parfois l'homoparentalité ou le mariage. Il faut se souvenir que qu'en 92, ils étaient à peine 10 000 dans la rue et qu'en 2001, ils étaient 500 000 et que depuis 10 ans, on n'est jamais descendu en dessous de 500 000 personnes à Paris, sans parler des cortèges de province.
Oui, votre film montre bien cette évolution du mouvement et puis de la visibilité finalement aussi de ces groupes-là. On entend des homosexuels qui disent « j'aurais jamais cru que la Gay Pride pourrait avoir lieu si on me l'avait dit 10 ans avant » ou des choses comme ça. Si on prend un peu de recul sur ces 30 années-là, donc vous les divisez en plusieurs périodes, celle des années 70, on peut dire, celle des années 80 qui sont un peu les années noires liées au sida, et puis à partir de 92, un renouveau des mouvements aussi. Quel regard vous porteriez sur l'évolution, alors peut-être à la fois des revendications et puis du regard que la société porte sur ces luttes-là?
Je dirais qu'il faut distinguer. Bon, l'évolution va dans le bon sens, on ne peut pas le nier. Enfin, c'est le sens de l'acceptation, puisque si on revient dans la situation. Avant 68, on a l'impression que les 30 années ou les 40 années qui viennent de passer valent des siècles. Hein. Faut se souvenir que en juillet 1960, le député gaulliste qui s'appelait Paul Mirguet, si mon souvenir est bon, proposait de classer l'homosexualité parmi les fléaux sociaux entre tuberculose, alcoolisme et prostitution. Les peines pour outrage à la pudeur étaient considérablement aggravées par cette loi. Les jardins publics étaient placés sous surveillance.
Avec des centres de police.
Des centres de flics. Il y avait un fichier homosexuel en préfecture. Il y avait des films, des journaux qui étaient interdits. Donc, effectivement, il y a de l'eau à couler sous les ponts de la Seine depuis 1968. On pourrait pointer les différentes évolutions, notamment après 1981 et la dépénalisation de l'homosexualité et les toutes premières années de 81, qui étaient vraiment des années de libération et d'insouciance. Effectivement, après l'arrivée du sida, qui n'a rien à voir avec les droits des homosexuels, mais qui va toucher l'homosexualité masculine de plein fouet, va changer beaucoup les choses. En tout cas, on sera vraiment plus dans l'insouciance. Mais quand je dis qu'il faut distinguer deux aspects, c'est que il y a la société et puis il y a les consciences, mais il y a aussi déjà il faut faire la différence entre l'évolution dans les grandes villes et dans les petites villes, plus que la distinction Paris-Province, qui à mon avis n'a pas lieu d'être. La vraie différence, elle n'est pas entre Paris et la province, mais entre les grandes villes et les petites villes. C'est vrai qu'en milieu rural, c'est souvent difficile, sans pour autant en faire une généralité. Et puis l'autre différence, c'est dans l'intimité de la famille. C'est-à-dire que...
Oui, ça apparaît dans votre film aussi, ces difficultés.
Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment que la société l'accepte davantage, qu'il y a des références, il y a plus d'ailleurs de références masculines que de références féminines. Hein. Je me souviens quand c'était donc il y a 10 ans que j'ai réalisé ce film, la seule personne qui femme qui disait qu'elle était homosexuelle et qui n'était pas connue pour être homosexuelle en tant que telle, c'était Amélie Mauresmo. Elle avait à peine 20 ans. J'ai pas l'impression qu'il y en ait eu énormément depuis des femmes qui aient dit publiquement leur homosexualité. Et il y a beaucoup plus de références chez les hommes. Mais je referme cette parenthèse. Ensuite, dans les familles, je me souviens d'une anecdote qui m'avait marqué quand j'avais réalisé Bleu, Blanc, Rose. J'avais rencontré beaucoup d'hommes, de femmes homosexuels et dans de toutes les générations. Et notamment, je me souviens d'un jeune qui avait à peine 18 ans, il doit avoir bientôt 30 aujourd'hui, et qui m'avait dit la difficulté qu'il avait à faire son coming out dans l'intimité de la famille, chose assez classique. Et au moment de l'affaire du Pax, donc il devait avoir à ce moment-là 16 ans, il y avait eu un film qui avait été diffusé sur M6, plutôt bien fait, qui s'appelait Juste une question d'amour. Et ses parents avaient vu le film avec lui. Et les parents avaient dit... donc lui, pendant une heure et demie, il était entouré de ses deux parents devant le petit écran. Il avait l'impression qu'on parlait de lui et ce film était bien fait, assez émouvant, sans généralité non plus. Et ses parents avaient trouvé le film formidable. Et lui était très ému et de voir ses parents réagir comme ça. Et donc il a dit c'est maintenant ou jamais que je dois le dire, quoi. Mmh. Et il se lance et il dit bah vous savez voilà ce qu'on vient de voir à la télé c'est un peu moi aussi. Et le lendemain, son père l'amène chez le psychiatre.
Ah oui.
C'est pour montrer que cet homme-là, qui aurait été peut-être capable, j'imagine, je dis pas peut-être un militant socialiste, qui aurait été capable d'aller manifester pour le Pax, mais tout d'un coup, quand il s'agit de son propre fils, quand on est dans l'intimité de la famille, le chemin est beaucoup plus difficile à faire. Et ça, il y a une espèce de permanence, même si ça va plus vite, même tant que plus il y aura de références dans la société, plus on avancera. Et on le voit notamment avec les enquêtes d'opinion aujourd'hui sur le mariage et l'adoption. Depuis 10 ans, c'est énorme le chemin parcouru.
Et c'est vrai que votre film là-dessus montre bien l'évolution qu'il y a eu alors, dans les droits et puis peut-être dans un regard de la société. Mais il ouvre aussi plusieurs questions et c'est vrai qu'il ouvre notamment cette question-là, que c'est toujours difficile, souvent en tout cas, à accepter au niveau des familles. Il y a plusieurs témoignages qui disent que les parents ne désirent jamais un enfant homosexuel. Nicolas Gouguin, est-ce que c'est quelque chose que vous... rencontrer aussi beaucoup et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, j'imagine.
C'est vrai, c'est-à-dire que c'est une minorité pas particulière. Je me rappelle qu'un des témoins me disait c'est que quand on est victime d'homophobie à l'école, c'est souvent on le garde pour soi. Quand on te traite de sale PD ou de sale lesbienne, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on a du mal, on ne sait pas qui en parler. Alors que si tu te fais traiter de sale juive, de sale arabe, tu peux toujours rentrer à la maison et en parler à tes parents, parce qu'en général, ils ont...
On va poser la même question à Nicolas Gouguin, qui est le porte-parole de l'intérêt LGBT.
Oui.
Nicolas.
En fait, pour compléter, plus que... Mais enfin, c'est une vraie question, la question de la hiérarchisation implicite entre les insultes, finalement, et les discriminations entre elles, où on a une réaction qui n'est pas la même sur quand on est témoin d'un acte raciste ou d'un acte homophobe, ça, c'est quand même une réalité. C'est, je pense, que ce qui peut être fait aujourd'hui difficulté au sein des familles, lorsque les parents apprennent l'homosexualité de leurs enfants, c'est la question de la projection dans l'avenir, parce que comme justement pour le moment, en tout cas, il y a pas de possibilité, enfin en tout cas telle que la loi et les droits sont conçus, il y a pas de possibilité pour les couples de même sexe de se projeter dans l'avenir, de fonder une famille stable, de pouvoir se marier, transmettre, et donc cette incapacité cette limite que donne la loi dans la capacité de ces personnes à pouvoir transmettre. Je pense que c'est ça aussi qui touche dans un premier temps les parents qui doivent faire peut-être le deuil d'être grands-parents, le deuil de tout ce genre de choses. Alors qu'en fait, on se rend compte maintenant depuis plusieurs années que pour autant, et ça je pense que ça participe aussi de l'évolution, de l'acceptation du coming out et de l'homosexualité au sein des familles. Comme il y a de plus en plus de familles, de couples et de familles qui sont visibles, que le combat pour les droits est de plus en plus visible, je pense que ça contribue aussi à l'amélioration de l'acceptation de l'homosexualité, même dans le cadre plus intime, comme vous le décriviez tout à l'heure. Et donc si demain on arrive à faire bouger l'ensemble de ces lois, ça contribuera aussi à faire bouger les mentalités, avec les deux vont vraiment de pair, je pense.
Peut-être. Oui, non, c'est vrai.
Alors, il y a plusieurs questions qui sont ouvertes à la fin du film. Il y a aussi la question du Pax, parce que évidemment le film se termine là-dessus. La question du Pax qui ouvre évidemment à la prolongation des revendications. Le film met bien aussi en parallèle quand même les évolutions des revendications sur cette question-là, où dans les années 70, on a des mouvements qui veulent dynamiter le modèle familial qui existe. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, on passe dans les années 2000 à une volonté beaucoup plus de normalisation, de droit normativité et droit à
l'enfant. Oui, c'est ce qui pose problème à pas mal d'homosexuels ou certains militants, où je me rappelle même avoir interviewé il y a 10 ans, je crois que j'avais gardé le témoignage dans le film de Patrice Chéreau, qui disait que lui, tout d'un coup... reconstruire un modèle familial comme ses parents, en gros ça lui posait problème, il avait rien contre mais ça le dérangeait tout d'un coup de d'être dans une sorte de normativité, ou aussi Jean-Paul Montanari qui disait nous on voulait faire exploser le modèle familial, donc moi je pense que on le dit toujours, enfin je sais pas si ça a été dit au début de votre débat, mais c'est le droit au mariage, c'est le droit au non-mariage, quoi.
C'est tout à fait les propos de Nicolas.
Donc que chacun vit son homosexualité comme il veut. Les homosexuels peuvent avoir le droit de ne pas se marier, voilà.
On va tout de suite écouter un petit extrait du film sur cette question et Nicolas Gouguin va le commenter, je pense.
On aime le Pax, c'est déjà une manière de dire on existe. Et c'est notre manière de déformer le mariage en Pax. C'est une forme d'amour aussi. Mais ça ne remplacera pas. C'est bien que ce soit ça actuellement, mais on espère que dans 10 ans, ça aura quand même évolué. Qu'on ne nous dise pas, vous avez déjà eu le Pax, maintenant, il ne faut pas non plus trop en demander, quoi.
On a donné aux homosexuels une carotte, ce qui fait que maintenant on a un Pax civil de solidarité qui n'est même pas de la solidarité, un truc mal ficelé qui va pas au bout de ce qu'il devait être, et puis voilà quoi.
Ça légalise un couple quand même, ça lui donne des droits, ça lui permet d'avoir des réductions d'impôts, ça lui permet d'assurer au conjoint en cas de décès c'est déjà pas mal, ensuite il y a une licence légale, je veux dire il y a des avantages.
C'est une avancée. Je veux dire, c'est la première fois que la loi reconnaît l'état d'homosexualité.
Oui, mais après, qu'est-ce qu'il y a ?
Mais après, c'est à nous de bouger notre cul, c'est tout.
Qui on ?
Ce qui me pose un problème, c'est l'imitation du couple hétérosexuel. C'est-à-dire la reproduction des mêmes schémas. Deux garçons dont l'un fait leur repassage et l'autre fait la vaisselle. On a envie de dire, mais ça, je suis d'une autre génération, je ne suis pas devenu homosexuel pour ça.
Voilà, j'ai laissé glisser jusqu'à Patrice Chéreau puisqu'on l'avait évoqué.
Non, mais voilà, c'était cette intervention effectivement qui était dans le film que je n'ai pas revu depuis un bon moment, effectivement que je faisais allusion. Ouais.
Alors
on
Nicolas Gouguin,
homosexuel comme ça, mais en même temps il dit ça et au fond je pense qu'il s'il fallait signer une pétition et je pense qu'il a d'ailleurs signé, il y souscrirait. Personnellement. Voilà.
Nicolas Gouguin, vous vouliez intervenir peut-être là-dessus.
Tout à l'heure, ça me faisait sourire parce que c'était un peu le début de notre débat en début d'émission sur dynamiter le modèle familial. Ou cette question de rentrer dans la norme ou de normaliser un certain nombre de réflexions, de etc etc. Je suis d'accord, en même temps je suis pas d'accord. Je pense que le Pax a profondément quand même fait évoluer la société dans son ensemble et notamment la conception du couple, puisque le Pax qui au départ a été fait pour les couples de même sexe quand même au départ. Aujourd'hui est autant adopté, il y a plus de 95% des Pax qui sont contractés aujourd'hui, qui sont contractés par les couples hétérosexuels, et donc c'est un contrat qui est largement pris par les hétérosexuels aussi, et ça a fait changer aussi un certain nombre de représentations, de manières aussi de concevoir la famille, y compris du point de vue des familles, des couples hétérosexuels. Et donc je pense que si demain on avance sur la question de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, ou sur la reconnaissance des familles homoparentales, on intègre aussi, on reconnaît des nouvelles formes de famille, parce que ce qu'on décrivait tout à l'heure sur la question de l'homoparentalité,
l'homoparentalité, c'est pas la parentalité par le mariage, déjà, premièrement. Et ça, c'est le modèle, pour le coup, historique, hein, mais c'est pas nécessairement la parentalité par le mariage, mais l'homoparentalité aussi, c'est, bah, enfin, reconnaître l'homoparentalité, c'est reconnaître, et c'est peut-être faire avancer toute une série de reconnaissances de toutes ces familles recomposées qui existent aujourd'hui, de ces schémas de familles recomposées. Il y a la question de la coparentalité. Enfin voilà, c'est des sujets qui sont nouveaux parce que finalement les familles homoparentales, elles amènent aussi des nouvelles formes de parentalité qui peuvent exister au sein de familles hétérosexuelles mais qui ne sont pas visibles de fait. Donc je pense que quand on fait avancer les droits quand on milite pour les droits pour les couples de même sexe et pour les homosexuels, on fait aussi avancer les droits pour toutes les familles en général et on contribue à faire évoluer les représentations et la manière dont on conçoit aussi, dont on place la famille dans notre société. Et c'est bien d'ailleurs ça qui fait peur finalement à la frange la plus conservatrice de nos politiques.
Oui, parce que ce qu'on pourrait, si on pousse un petit peu logique jusqu'au bout, ce que vous nous dites, c'est finalement en acceptant des mariages homosexuels, en acceptant l'homoparentalité, on dynamite et l'institution du mariage et l'institution patriarcale dans sa globalité, non ? C'est un petit peu ça que vous dites finalement.
Oui, je pense que c'est une manière peut-être de se la réapproprier autrement. Enfin, peut-être aussi de rappeler que le mariage au départ, enfin, c'est un mariage civil, quoi. Enfin, au départ, je veux dire, le mariage aujourd'hui tel qu'il est conçu, c'est un mariage civil. Donc, je comprends pas toute cette morale. Effectivement, c'est quand même une institution qui a une histoire. On est d'accord. Mais pour autant, je comprends pas encore un certain nombre de politiques, y compris François Bayrou, très très récemment, qui dit oui à tout quasiment. Sur l'homoparentalité, y compris qui avance sur la question de la reconnaissance des enfants nés de gestation par autrui à l'étranger. Donc il avance sur ce sujet-là, qui est un sujet difficile quand même à aborder et sur lequel on n'attendait pas nécessairement. Et pour le mariage, il reste bloqué pour des questions de conviction personnelle et pour ne pas heurter la conviction personnelle d'autres personnes. Sauf qu'on n'est pas sur un débat sur les convictions, puisque le mariage, il est civil, il est républicain et il est laïque. Donc la question du mariage religieux, c'est autre chose, c'est encore autre chose. Puisque quand on se marie, on se fait reconnaître, on passe devant le maire. Donc finalement, moi, je m'en contrefiche de l'étape religieuse. Ça, je pars du principe que ça fait partie de la vie privée des gens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte justement et la reconnaissance devant le maire. Et peut-être que le fait d'ouvrir le mariage à tous les couples, ça renforcerait peut-être le côté laïque, républicain et civil du mariage. Peut-être renforcer cette idée-là. Je suis peut-être un peu utopiste.
Une transition toute trouvée vers le deuxième documentaire qui a été fait par Yves Geland, donc sur le mariage de Bègle, qui s'appelle Marie à tout prix et qui a été produit chez Phare et Balise. Alors c'est un documentaire qui suit en fait toute l'histoire de ce mariage qui a été réalisé par donc un couple de même sexe par Noël Mamère en 2004. C'est un film qui montre bien les difficultés et les réactions, en tout cas le travail qu'il y a à faire en termes de changement des représentations de la population, le travail qui reste à faire là-dessus, Yves Geland, c'est quelque chose que votre film met relativement en avant, à la fois les critiques, on va dire, de la part de la population, et puis les difficultés que les forces politiques mettent dans les bâtons dans les roues qui sont mis à la mairie de Bègle.
Oui, c'était un tournage. D'abord, je ne suis pas le seul réalisateur du film, c'était Jean-Michel Venmani qui m'a d'ailleurs proposé de suivre cette aventure qu'on n'imaginait pas à ce point rocambolesque, puisqu'on a été pris par un tourbillon à la fois médiatique, politique et juridique, où moi je suivais avec ma caméra embarquée Noël Mamère. Et Jean-Michel Venmani suivait les deux amoureux qui allaient convoler en os d'ailleurs assez coloré puisqu'ils avaient voulu faire un mariage avec une Rolls et tout ce qui allait avec. Oui. Donc c'est étonnant de voir d'ailleurs combien les hommes politiques ou les femmes politiques sont à la remorque de l'opinion publique. Vous citiez tout à l'heure François Bayrou, qui à l'époque était plus d'ailleurs à droite qu'au centre, et il faut de savoir qu'il dit aujourd'hui qu'il est contre le mariage, ou d'entendre même Sarkozy dire qu'il est pour que les, un PACS amélioré quand, quand on sait combien ils ont combattu le PACS, combien la, en 99, combien 2004, 2004 c'était hier, le mariage célébré par Noël Mamère a pu susciter de violence, de haine dans les propos. Le PACS, c'était, on parlait de retour à la barbarie, de décadence, de zoophilie. De, l'actuel président de l'Assemblée nationale disait que la nation n'avait pas à encourager les déviances. Il disait ça dans, dans, dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, les mêmes disent que le PACS, ça ne suffit pas et qu'il faut faire un PACS amélioré. Certains même prônent au sein de la droite le mariage. Le PS, qui était assez frileux, aujourd'hui, il l'a inscrit dans, et François Hollande, de son, dans sa proposition numéro 31 de ses 60 engagements, l'a inscrit donc dans son programme de réalisation pour le mandat à venir. On sent quand même qu'ils sont à la traîne de l'opinion publique et qu'ils ne veulent pas rater la, le train en marche. Mais effectivement, Noël Mamère était très, très, très isolé à ce moment-là, en 2004. Alors on disait qu'ils étaient, qu'il allait, c'était trop tôt, qu'il fallait d'abord changer la loi, certes, mais il y a des moments où le fait de provoquer un petit peu,
oui, c'est son discours d'ailleurs,
provoque déjà non seulement le débat, mais également les politiques. Et je pense qu'il a eu raison. Voilà, aujourd'hui, ça semble une évidence. Le PS n'a guère le choix, j'ai l'impression. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Portugal, tous ces pays ont voté le droit de, au mariage pour les gays et les lesbiennes. Donc,
c'est vrai qu'aujourd'hui,
la gauche ne peut s'isoler et elle ne peut pas s'isoler. Donc
le paysage paraît plus ouvert, mais on voit bien dans le film aussi toute la difficulté qu'il y a eu à le faire et toute le.
Ah oui, rien n'a été épargné. Puis à un moment, c'était devenu même. Il y avait, enfin, j'ai l'impression que c'était jusqu'au dernier moment.
Oui, ça a été menacé jusqu'à
la fin. Ne savait pas s'il pourrait célébrer ce mariage. Sans, faut se souvenir de toutes les menaces qu'il a reçues. Mm. Il y avait les alertes à la bombe. Il y avait
des lettres assez impressionnantes.
Il y avait des courriers qu'il a gardés. Il avait même dormi dans la mairie de Bègles la veille pour être sûr de pouvoir célébrer le mariage. Mm. Donc, effectivement, ça provoque des réactions qui sont totalement irrationnelles. Et puis, tout simplement, ça a mis à jour une homophobie
assez virulente, oui.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Nicolas Gouguin, vous vouliez réagir ?
Non, c'est très bien, raconté. Je discutais avec Clémentine Autain il y a encore quelques jours, qui était présente à ce mariage et qui nous racontait qu'elle avait reçu par courrier des paquets d'excréments, enfin de merde, quoi, qu'on lui envoyait. Donc voilà, qui nous rappelait aussi, enfin la militante nous rappelle souvent que effectivement cette période-là était particulièrement violente. Et bon, tout à l'heure vous parliez du débat sur le PACS. C'est vrai que quand on se replonge, récemment je m'étais replongé un peu dans les verbatims, quoi, les discours puis les interventions qui avaient eu lieu à l'occasion de ce débat. Et c'est vrai que c'est impressionnant, c'est tout simplement impressionnant. Et c'est là où, pour se projeter peut-être un peu dans la période qui va venir, si on se retrouve avec un gouvernement qui pourrait être, imaginons, si on positive, un gouvernement qui pourrait être favorable à nos revendications. Pour autant, même si l'opinion est largement favorable à ces questions-là, pour autant, c'est pas dit qu'il n'y ait pas une opposition aussi violente, sinon plus, qui se manifeste à cette occasion-là. Donc nous, notre souhait, par exemple, les associations, nous souhaitons que si projet de loi il y a sur ces questions-là, que tout soit fait en même temps, quoi. Que la question du mariage, la question de l'homoparentalité, la question des droits des trans, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tous ces sujets-là, plutôt que de les faire l'un après l'autre et de créer des fronts de protestation des ultra-réac conservateurs qui ont une vraie force de mobilisation, sont un vrai lobby auprès des parlementaires, ont une vraie force de mobilisation et de déstabilisation, autant tout faire d'un coup. Et ce que nous demandons, c'est notamment que ça puisse être fait dans les 100 premiers jours, idéalement.
Merci. Bah, écoutez, je crois qu'on va être obligé, malheureusement, sur un sujet où il nous restera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire.
On va être obligé de se laisser. On vous remercie. On remercie les deux invités. Donc Nicolas Gouguin, qui était le porte-parole, qui est le porte-parole de l'intérêt LGBT.
Et puis Yves Jelan, qui est l'auteur des deux documentaires, donc Bleu, Blanc, Rose, et puis Marie à tout prix. On va se quitter sur un extrait de ce dernier documentaire, qui est le moment du mariage, donc la fin du film, qui est un petit moment d'émotion quand même. Et puis pour voir,
un gros moment d'émotion.
Pour entendre le film en entier, je vous invite évidemment à vous procurer le DVD chez Phare et Balise.
Nous allons donc célébrer le mariage en la mairie de Bègles.